à voix nue. Toute cette semaine, Olivier Barrault rencontre Pierre Barillet. Ce soir, à la première personne.
Bonsoir Pierre Barillet.
Bonsoir.
Je voudrais qu'on évoque ensemble vos livres, ceux que vous avez écrits seuls, sans Jean-Pierre Grédy, et qui d'ailleurs ne sont absolument pas des œuvres dramatiques, ne sont pas des œuvres de théâtre, ce sont des livres d'histoire, de souvenirs, et dans certains cas même, ce sont des romans. Et chronologiquement, le premier d'entre eux, c'est Les Seigneurs du Rire, qui est paru chez Fayard, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, vous et moi. C'est une évocation de trois personnages très importants dans la vie du théâtre d'il y a à peu près un siècle, hein. Aux alentours du passage du 19e au 20e, et qui sont Robert de Flers et son compère Gaston Armand de Caillavet, auquel a succédé Francis de Croisset quand Caillavet est mort en 1918, sauf erreur de ma part. C'est un vrai travail biographique, et alors vous avez là dévoilé des choses qui, je crois, étaient mal connues, voire inconnues, notamment à propos de Robert de Flers. De Flers qui était, comme on sait, le condisciple de Marcel Proust au lycée Condorcet, qui a été directeur du Figaro, grand auteur dramatique, mais aussi, dites-vous, un personnage qui, pendant la Grande Guerre, a tenu un rôle très important et d'une manière nécessairement clandestine, puisqu'en réalité, il a mené des actions d'espionnage.
Oui, absolument, oui.
C'était le marquis Robert de Flers de la Motango, n'était pas seulement le personnage léger que l'on croit.
Non, il est devenu un personnage illustre en Roumanie. Il y avait même une rue baptisée rue Robert de Flers à Bucarest.
Oui. La guerre, donc, bien entendu, mais c'est pas simplement une évocation de ses missions secrètes. Robert de Flers. Et Caillavet, donc. Qu'est-ce qui, d'emblée, vous a donné envie de vous intéresser à lui? Parce qu'enfin, ça n'est pas un parcours rapide, c'est un livre extrêmement documenté qui fait près de 500 pages, ou même plus de 500 pages, d'ailleurs. Oui, il en fait 600. Très documenté, avec des notes, un index, enfin, c'est très très bien foutu. Pourquoi il vous plaît tellement, ce Robert de Flers?
Pour une raison très simple. On a beaucoup évoqué Flers et Caillavet en parlant de notre théâtre. On a beaucoup écrit que nous étions les successeurs de Flers et Caillavet. Ouais. Et en fait, moi, ça m'énervait un peu à nos débuts. Je trouvais que Flers et Caillavet, que c'était démodé, très très sottement, parce que j'ai vraiment découvert après Flers et Caillavet, je me suis vraiment penché sur eux et j'ai été émerveillé, enchanté et vraiment fier qu'on puisse vraiment dire que nous avions succédé à ces deux autres. Donc, et alors j'ai découvert des vies très étonnantes, un milieu très étonnant, ce milieu, cette société où il y avait vraiment ce théâtre d'amateurs, ce théâtre des salons, enfin leurs amitiés, l'affaire Dreyfus, enfin ils ont eu des rôles éminents, socialement, humainement, politiquement, la mère de Gaston de Caillavet qui était la maîtresse d'Anatole France, Madame de Caillavet qui avait son salon, qui était, il y a eu vraiment des rivalités incroyables. Entre tout. Parce que tous ces oisifs étaient des gens extrêmement occupés et qui travaillaient énormément. Je parle de ceux qui entouraient Flers et Caillavet. Eux-mêmes travaillaient comme des forcenés, Flers et Caillavet. Hein. Vraiment.
Oui, bien sûr. Enfin, lui, il a occupé des fonctions éminentes dans le journalisme, hein, puisqu'il a dirigé le Figaro.
Directeur du Figaro, voilà. Oui. Critique dramatique.
Ouais, absolument. Et type très avisé, très intelligent. Hein. Il n'y a qu'à lire une ligne de ce qu'il a pu écrire sur son époque, car il a laissé des traces de ce point de vue-là. Le type est très très fin. Mais arrêtons-nous sur leur théâtre, et notamment sur peut-être les trois grandes pièces de Flers et Caillavet. Commençons par L'Habit Vert, qui est ma prédilection, qui est une satire très aimable, mais extraordinairement intelligente et fine, de l'Académie, bien entendu. L'Habit Vert, c'est celui des 40 académiciens.
Vous savez que ça avait ulcéré les parents de Flair, qui ont dit « Mais tu n'entreras jamais à l'Académie si tu écris cette pièce
!» Ben, ça n'a pas empêché qu'il ait été élu brillamment.
Justement, oui.
C'est une pièce qui est créée, sauf erreur de ma part, en 1912, hein, L'Habit Vert, quelque chose comme ça. Elle met en scène un certain nombre d'aristocrates, tout comme l'était Robert de Flers, qui sont membres de l'Académie et dont le principal mérite, c'est de n'avoir pas écrit dans ces années-là. On peut
un d'entre eux. L'un d'entre eux.
Ça se passe en partie dans le château normand de l'un de ses dignitaires. Peu à peu, la scène se nourrit de l'arrivée d'un certain nombre de visiteurs extraordinaires, dont un personnage vraiment baroque inventé par Flers et Quévé qui s'appelle Parmeline, mmh. et qui est un faux artiste d'ailleurs, mmh. un picassiette qui vit au crochet de ceux qui lui prêtent du génie. C'est extraordinairement drôle tout ça, encore aujourd'hui. Mmh. Et pourtant, ça n'est plus guère joué.
Non, parce que les distributions sont tellement importantes qu'on ne monte plus des pièces maintenant avec tant d'acteurs en scène.
Ouais. Mais ça pourrait très bien jouer à la Comédie Française, pour le coup.
Ça l'a été, non ?
Est-ce que ça a été ? J'en sais rien. Je ne sais pas.
Enfin, il y a les Flers et Quévé ont été joués à la Comédie Française. Il y a une pièce un peu sucrée qui s'appelait Primrose, qui a eu battu des records de nombre de représentations à la Comédie Française.
Ils ont écrit ensemble aussi une pièce étonnante qui s'appelle Le Roi, et qui raconte la visite d'un souverain venu d'Europe centrale, peut-être, et qui naturellement vient s'encanailler à Paris. Et tout ça a donné d'ailleurs lieu à des adaptations cinématographiques très réussies. Mm-hmm. La Bivère est interprétée par André Lefort, et Le Roi par Victor Francen, grand auteur tragique, qui là joue un rôle de comédie à la perfection.
Oui.
Moi, j'ai adoré cette façon de voir Paris avec les petites femmes, dont Gaby Morlaix, etc. etc. Vous attardez aussi sur le moins connu des trois, donc le successeur de Quévé auprès de Robert de Flers, qui est Francis de Croisset. Drôle de zig aussi, celui-là.
Ah oui, c'est un homme qui a eu une vie très, très pittoresque, je dirais.
Oui. Il ne s'appelait pas du tout Croisset, mais il avait décidé de changer de nom. Et il avait, paraît-il, vous le racontez, expliqué qu'il prendrait comme patronyme ou pseudonyme le nom du premier village qu'il allait traverser en automobile. Or, le village en question n'est autre que le Croisset de Flaubert.
Oui, je ne vois pas comment ça a été le premier, mais enfin bon, la légende le veut.
Oui, oui. Mm. Ben, c'est bien parce que vous qui avez écrit sur Flaubert et sur sa Louise, précisément, Louise Collet, ça crée un lien de plus entre vous. Ce gros travail de recherche, de documentation, etc., ça a donné un livre. Est-ce qu'il s'est bien vendu ?
Oh, je ne crois pas, non. On en parle toujours, il y a toujours quelques amateurs, mais je ne crois pas que ça soit bien vendu, non. Ce n'est pas le genre de livre qui fait des best-sellers, vous savez.
Oui, en même temps, c'est le seul qui existe sur Flers et Quévé, pour peu qu'on s'intéresse à ce théâtre-là. Revenons à la parenté qu'on vous prête, que la presse vous a prêtée, entre d'un côté Flers et Quévé et de l'autre Barillet et Grédy. Les ressemblances, les similitudes étaient de quel ordre ? Vous faisiez les uns et les autres, vous écriviez des comédies dramatiques, du boulevard particulièrement travaillé, c'était ça qu'on voyait en commun ?
Bah, probablement.
Parce qu'il y a chez Flers et Quévé aussi le souci de parler de l'époque, et donc des travers de l'époque.
Oui, bah, c'est le souci de tout auteur.
Oui. D'autres de vos ouvrages. On a évoqué tout à l'heure « Quatre années sans relâche », qui est un livre très autobiographique, mais au-delà de votre arrivée à Paris, de votre lancement dans le tout Paris des spectacles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est bien autre chose. C'est une véritable chronique du Paris d'occupation, à quoi vous livrez dans « Quatre années sans relâche ». C'est pas simplement vous, Pierre Barillet.
Oh ben non, je suis très, très en coulisses quand même de cet ouvrage. Mais non, parce que je trouve que rien n'avait été dit. Moi, j'affirme que je dis la vérité. Oui. Tout a toujours été assez interprété sur cette époque. Enfin, en tout cas, dans le domaine du théâtre.
Oui.
J'ai des petits cousins. Ce qui m'avait décidé à le faire, des petits cousins m'ont dit, je leur parlais de la Comédie Française. Ils me disaient, mais comment la Comédie Française s'était ouverte pendant la guerre ? Alors je dis, oui, ça n'a jamais été plus ouvert que pendant la guerre. Oui,
bien sûr. Mais au fond, votre travail dans « Quatre années sans relâche », moi je le trouve très complémentaire d'un film comme « Le dernier métro » de François Truffaut. Ça donne... une idée de ce qu'était le quotidien dans cet univers du spectacle.
Donc. Tant mieux.
Ah oui, un beau film d'ailleurs, il faut dire.
Ah oui.
D'ailleurs, interprété par Catherine Deneuve, qui a été votre interprète dans le film Dozon, on en a parlé au cours de la semaine. Vous l'avez retrouvée, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fréquentée, mais...
Oui, je la connaissais, oui, sans aucun lien d'amitié, mais enfin je la connaissais. Ouais. Nous ne sommes pas davantage amis d'ailleurs maintenant, après Potiche. Mais, non, c'est une femme assez froide, elle travaille beaucoup,
Mais elle a très bien servi Potiche.
Oh, très très bien, elle l'a humanisé. comprenez ? Après tout, Jacqueline Maillan, c'était surtout une machine à faire rire, à sexuer, je dirais. Tandis que tout le monde, toutes les femmes se sont quand même vues incarner en Catherine Deneuve.
Ouais.
Elle a beaucoup servi.
Un autre de vos livres, qui est peut-être le plus étrange de tous, c'est un livre crypté qui s'appelle Hollywood Solitude et que vous avez publié comme les précédents, comme le précédent chez Bernard de Fallois. Hollywood Solitude, c'est une sorte de chronique, c'est presque un recueil de nouvelles. Et comme son nom l'indique, nous sommes en Californie. Et on s'aperçoit que le monde du cinéma, le 7e art, Hollywood, Sunset Boulevard, eh ben, c'est pas si gai que ça.
Non, je pense que c'est un lieu tragique, même.
Tragique.
Parce que tout y est fiction. Et que vraiment, quand ces interprètes qui n'existent que dans la peau d'un autre ou d'une autre, quand ils se retrouvent en face d'eux-mêmes, que c'est vraiment la solitude la plus désespérante.
Vous connaissez très bien Hollywood.
Assez bien.
Vous êtes allé à maintes reprises, à la fois pour les représentations à Los Angeles de vos pièces, mais aussi pour le filmage d'un certain nombre d'adaptations, car vous avez eu quand même, il est bon de les citer, des interprètes sur scène et en studio absolument sidérantes. Tout le cinéma américain et tout le théâtre américain ont interprété Barry Agredi en anglais, en Californie et dans toutes les villes des États-Unis.
Oui, on a eu beaucoup de chance.
Oui, vous avez eu entre autres comme interprètes des Ingrid Bergman, des Lauren Bacall, des June Allison, des Lana Turner.
Ginger Rogers.
Ouais. C'est extraordinaire quand même.
John Fontaine.
Ouais. Vous étiez là quand ces personnes interprétaient vos rôles ?
Pas tous, non. Pas
vous
tous.
Avez vu qui, par exemple ?
Oh, j'ai vu Lauren Bacall, bien sûr, puisqu'elle a créé Fleur de Cactus. J'ai vu Ingrid Bergman quand elle a tourné le film. J'ai vu Liv Ullmann quand elle a tourné 40 carats. J'ai vu la reprise de Cactus par Ginger Rogers à Broadway. J'ai vu... Oh, il y a Zsa Zsa Gabor, l'ineffable Zsa Zsa Gabor, qui a joué 40 carats. Ça, c'était une rigolade.
Elle avait peut-être un peu plus que 40 carats à l'époque.
Oui.
Il y a une chose troublante dans ce livre aussi, c'est que, pour des raisons que vous avez nous expliquer, vos personnages portent, si j'ose dire, des pseudonymes. C'est-à-dire que les gens les plus compétents reconnaîtront certaines figures. Georges Cukor, qui a été un ami intime pour vous, et d'autres encore, Lauren Bacall d'ailleurs. Mais vous les avez baptisés autrement dans le roman, dans le livre. Pour quelle raison ?
Ben parce qu'ils ont toujours incarné d'autres personnages, puisque Hollywood vraiment est ce n'est qu'un mirage, n'est-ce pas ? Donc ces personnages sont beaucoup plus réels dans le mensonge que dans la vérité.
Mais vous avez assisté au tournage de certains des films de votre ami Cukor.
Oui, plusieurs.
Oui, et... Cukor était réputé pour être un extraordinaire directeur de comédienne, d'actrice.
Oui, oui.
Ce qui était, semble-t-il, quelquefois un peu volcanique, parce qu'il avait un fort tempérament. Cukor.
Écoutez, moi, je n'ai jamais vu exploser. Ça a dû lui arriver, mais il avait des amitiés et des inimitiés, c'est vrai. Mais il les manifestait, mais je ne l'ai jamais vu. Comme on parle toujours de Carnet ou d'autres metteurs en scène
Clément,
qui piquaient des crises effroyables.
Clouseau, oui.
Donc Clouseau, pas que je sache, Cukor. Il pouvait être caustique.
Ah oui. Racontez-nous, vous arrivez à Los Angeles pour le voir et vous habitez dans sa villa.
Oui.
Il habitait à Beverly Hills, je suppose.
Oui.
Comment c'était ? C'était comme un film américain tourné à Hollywood ?
Chez lui ?
Oui.
Assez, oui. Mais c'était très beau. Ouais. C'était une très, très, très belle demeure. Oui, c'était très beau. Je ne vais pas vous décrire. Il y avait un salon baroque, il y avait des... Il y avait un très beau, très, très beau bureau où tout était en... les murs étaient en tapissés de cuir. Enfin,
ouais.
C'était très beau.
Mais quand vous alliez fréquemment à Hollywood dans les années 60, 70, etc., vous y alliez très très souvent. Vous étiez le seul Français de ce petit cénacle ou il en était beaucoup d'autres ?
Il n'y avait pas beaucoup de Français, non, il y en avait de passage toujours, oui. Mais non, c'était plus de la grande époque des Français à Hollywood, vous savez, non, je n'ai...
Ouais.
Non, non, je me souviens de Lolo Brigida qui était là-bas. C'est pas une Française, mais elle était là-bas. Je me souviens d'avoir beaucoup vu Laurence Olivier là-bas. Mais des Français, non.
Est-ce que vous avez songé vous installer à Hollywood?
Oui, j'y ai pensé un moment.
On a dû vous le proposer.
Aussi, c'était aussi un mirage. Ouais, ouais. Oui, j'avais songé, j'avais pris une option sur un terrain pour faire construire tout ça.
Et qu'est-ce qui a fait que vous ne vous y êtes pas installé?
Bah, le temps a passé, j'ai vu tout de même Georges Cukor qui vieillissait, au fond, tous les amis que je m'étais fait étaient beaucoup plus âgés. Claudette Colbert, elle avait quitté Hollywood pour s'installer à la Barbade. Ouais. Au fond, il n'y avait plus beaucoup de raisons pour moi d'aller là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais fait?
Vous auriez écrit des pièces ou des scénarios. Après tout, un de vos successeurs, Francis Weber, l'a fait et il a très bien réussi.
Il a très bien réussi, c'est vrai. Oui, moi j'avais été assez fasciné aussi, comme beaucoup de Français. Pour dire que Hollywood est un lieu, si on y travaille, magique, parce que tout y est très facile pour un travailleur, vraiment, c'est un lieu exceptionnel. Ouais. Mais pour n'y rien faire, vous savez, c'est à la retraite là-bas, c'est là qu'on se trouve confronté
à la réalité. Vous nous avez fait rêver tout de suite en citant un certain nombre de vos interprètes. Claudette Colbert, je crois, ne vous a pas joué. Elle vous a interprété, Claudette Colbert?
Non, jamais.
Mais vous avez noué avec elle une amitié intime.
Oui, tout a démarré justement avec Adieu Prudence, qu'elle voulait jouer avec Charles Boyer à Paris. Mmh. Et la défection de Charles Boyer l'a fait renoncer à le faire.
Ah oui. Mais Claudette Colbert, dont on se souvient qu'elle était née en France, à Saint-Mandé d'ailleurs, mais qu'elle a quitté très vite France pour les États-Unis.
Oui, à l'âge de 5 ans.
Voilà, et qui a fait une carrière admirable, vraiment, en premier rôle.
Écoutez, pendant 10 ans, elle a été la star numéro 1 de la Paramount.
Ouais. Et puis vous l'avez retrouvée dans sa maison de la Barbade.
Oui, souvent j'y allais, tout le temps. Enfin tout le temps. Presque tous les ans, j'allais faire un séjour chez elle à la Barbade.
Et comment Claudette Colbert parlait-elle le français après tant d'années aux États-Unis? Est-ce qu'elle avait une légère pointe d'accent américain ou pas du tout?
Je dirais presque une intonation, plus qu'une pointe d'accent. Ce n'était pas de l'accent. Une intonation et quelquefois des expressions. Elle disait, il faut mouver la voiture, quelquefois, des gens de genre. Mais elle parlait très, très bien le français. Très, très bien. Elle adorait parler français.
Ah, oui.
Elle ne parlait pas souvent.
Vous publiez ensuite un autre livre de souvenirs, si je puis dire, à la première personne, qui s'appelle « À la ville comme à la scène », et qui est une mine de renseignements sur la vie théâtrale à Paris entre la Libération, si je puis dire, et les années 80. Ça fait un peu la suite, d'ailleurs, de 4 années sans relâche.
Écoutez, parce que je trouve que le théâtre est tellement éphémère que vraiment, j'ai éprouvé le besoin, vraiment, de consigner tout ce qui m'avait ému, tout ce qui avait existé, et même ce que je n'avais pas aimé, mais qui avait pris une certaine importance. Je crois que j'étais très impartial, mais j'ai voulu vraiment dresser un bilan de toutes ces années théâtrales qui ont été quand même très riches On publie davantage maintenant le théâtre, mais vraiment dans tout ce que j'évoque, beaucoup de choses auraient disparu si elles ne restaient pas entre ces pages.
Mais c'est un livre qui est extrêmement personnel, parce que ce n'est pas simplement une nomenclature de spectacles, puisque vous allez au théâtre tous les soirs, ou presque, ce n'est pas simplement un répertoire de pièces. C'est beaucoup plus que ça. Il y a d'ailleurs un très bon index des noms à la fin, et on voit vivre le théâtre dans ses réussites et aussi dans ses bides, ses échecs ou ses incompréhensions.
Et puis j'ai établi un parallèle avec les événements, et aussi un peu avec ma vie personnelle, qui ne compte pas beaucoup, mais enfin, qui est quand même... c'est quand même moi qui ai vécu ces événements et qui ai vu ces pièces.
Justement, vous en parlez un peu, mais le minimum de votre vie personnelle. Et on voit que vous avez connu deux, trois peut-être grandes... Je ne sais pas si ce sont des grandes passions, et il ne m'appartient pas d'être indiscret, je dirais des grandes dilections peut-être, avec tel ou tel. Mais on n'a pas le sentiment que c'était premier dans votre existence.
Non. Vous savez, moi, en fait, l'amitié a eu plus d'importance que l'amour dans ma vie.
Oui, mais c'est
encore pour moi, l'amitié, c'était mes histoires d'amour.
Oui, c'est une jolie formule. Mais ce qui est frappant avec vous, Pierre Barillet, qui n'avait que 90 ans, c'est que non seulement l'amitié est vivante, elle est vive autour de vous. Vous la pratiquez comme une sorte de discipline, ou presque l'un des beaux-arts, et vous avez autour de vous une collection impressionnante de gens de toute génération.
Enfin, toute génération, la mienne, ça... Ça se raréfie.
Oui, certes, mais ce que je voulais dire quand je dis toute génération, c'est un peu comme la globalisation ou la mondialisation sont des mauvais termes. Il s'agit en l'occurrence des plus jeunes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas seulement des admirateurs ou des admiratrices, ce n'est pas simplement de ça qu'il s'agit. Ce sont des gens qui d'ailleurs aspirent au métier qui est le vôtre, l'écriture dramatique, et qui ont 25 ans.
Oui, c'est vrai, mais ça, j'aime beaucoup leur compagnie. Je crois que c'est ça qui me maintient en train.
Ouais.
Et Oui, ça, j'aime beaucoup être entouré du moment qu'ils sont actifs, qu'ils ont, qu'ils travaillent. C'est surtout moi le travail. Je trouve que c'est la meilleure occupation, qu'on n'en a jamais trouvé d'autre. Et oui, j'aime beaucoup. Que, si je peux les aider, je le fais très volontiers.
Oui, oui, je me suis laissé dire que vous le faites, effectivement. Vous avez écrit un autre livre, roman stricto sensu, celui-là, inspiré d'un personnage qui a existé bel et bien, et qui s'appelle « Un génie, ce petit ». C'est le portrait d'un homme sans œuvre, d'un homme aux virtualités exceptionnelles, l'intelligence, le talent, la culture, les moyens, tout. Bon.
Et quelqu'un qui ne fait rien. C'est le destin le plus tragique que j'ai connu.
C'est une sorte de Blomov.
Un homme qui était d'une extrême gaieté, enfin apparente, qui avait un esprit fou.
Ouais.
On peut dire qui c'était, vous savez.
C'est Jean-François Lefèvre Pontalis.
C'est le frère de Bertrand Pontalis, qui m'en a beaucoup voulu d'avoir écrit ce livre. Mais il est décédé maintenant.
Il y a un côté Oblomov chez Lefèvre Pontalis. Il a un peu envie des choses, mais pas tant que ça, finalement.
Oh, je crois que si.
Mais il n'en fait rien.
Non, mais je pense que ça a été vraiment... vous savez, c'était l'homme le plus divertissant au monde. Moi, j'ai eu vraiment mes plus belles heures, je les ai passées, je crois, avec lui.
Vous avez écrit deux autres livres, tout récemment. L'un est un portrait de Bronia Claire, qui a été la compagne, la passion d'ailleurs de Raymond Radiguet.
C'est pas un livre, c'est une plaquette.
Un hommage, disons, un salut à Bronia Claire.
Je rapporte ses confidences.
Ouais, c'était l'épouse de René Clair, le grand cinéaste, dont on ne parle plus guère et comme c'est injuste.
C'est très injuste. Mm-hmm. Non, est-ce qu'elle existe beaucoup plus. Elle a cru n'être que la veuve de René Clair. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pourquoi elle s'était refusée à la publication de ces quelques pages au moment où on allait le faire, après avoir donné son accord. Parce que bon, elle existe en fait par son histoire d'amour avec Raymond Radiguet.
Ouais. Et
elle me l'a raconté un jour, alors que c'était un sujet tabou. J'aurais voulu que je te raconte mon histoire avec Radiguet. Je dis, mais oui, bien sûr, je l'ai tout de suite consigné cela. Et elle en était contente, d'ailleurs, ça ne la montre pas sous un jour défavorable, au contraire.
En aucune façon.
Et puis, au moment de le publier, même chose, 10 ans après sa mort, je pense qu'elle serait très heureuse. Parce qu'après tout, si elle a voulu léguer l'histoire alors que je ne lui demandais pas, c'est que tout de même qu'elle voulait que quelqu'un s'en souvienne.
Et Simone Simon, à qui, là encore, vous consacrez une plaquette, je ne sais pas, disons, un court essai, un portrait biographique, un livre de souvenirs aussi. Vous l'avez très bien connu, Simone Simon.
Très bien connu, Simone Simon. Oui, moi, j'ai écrit une biographie sur Simone Simon. Oui, elle est un personnage très, très, très singulier.
Elle aussi, elle a été à un moment très installée à Hollywood.
Elle a passé la guerre là-bas. On ne va pas vraiment entièrement à Hollywood parce que sa vie américaine n'a pas été toujours très, très joyeuse. Hein. Elle a eu des déboires importants là-bas. Elle a fait beaucoup de scandales. Malgré elle. Mais elle a eu une histoire d'amour avec George Gershwin, et avec d'autres. Enfin, elle a été un personnage assez, assez étonnant.
Oui. Il y a pire que George Gershwin, quand même. George Gershwin, parmi pas mal d'autres, on peut le dire sans la calomnier.
J'ai découvert une autre histoire qu'elle ne m'avait jamais confiée sur elle, mais elle a eu une liaison avec l'homme qui a inspiré James Bond.
Non.
C'était un espion qu'elle a connu. Elle était surveillée par le FBI quand elle tournait quand elle tournait ce film La Féline.
Oui.
Elle était surveillée par l'FBI. Lui-même devait se rendre au Portugal. Il n'avait pas d'argent. Elle lui a prêté de l'argent. Elle a toujours pensé que l'argent qu'elle lui avait prêté avait servi à la fameuse scène du Casino Royal qui a été reprise dans le film, mais qui était une histoire qui a vraiment existé.
C'est formidable. Quelle est votre prochaine pièce? Parce que vous connaissant quelque peu et surtout ayant lu vos livres et bientôt l'édition de votre théâtre en un volume, Théâtre Choisi, il n'y a que 10 pièces sur plus d'une trentaine, votre prochaine pièce, je suis sûr que vous y travaillez déjà.
Non.
C'est fini? C'est fini vraiment l'œuvre théâtrale? Non.
Aujourd'hui en tout cas, oui.
Ouais. Vous ne manquez pas d'inspiration?
Mais j'ai quand même une pièce dans mes tiroirs qui n'est pas jouée.
Vous voyez comme
mais
vous
j'espère
êtes.
Qu'elle le sera.
Oui. Vous voyez comme vous êtes. Non, bien sûr, un peu plus que, qu'une, je présume. Cette pièce qui est dans vos tiroirs, quelle en est l'intrigue ou quel en est l'enjeu dramatique?
L'enjeu dramatique, c'est un. En fait, c'est l'histoire d'une vengeance. Mais c'est aussi la confrontation entre des générations, entre. Certaines ambitions et l'amour.
Vous avez des regrets?
Oui, j'aurais voulu faire mieux.
Certes, chacun d'entre nous a envie de faire mieux, mais quand vous considérez l'existence qui est la vôtre et qui se poursuit, vous pouvez quand même vous octroyer, allons. 11 sur 20, 12 sur 20 ?
Non, écoutez, je trouve que j'ai... Tout de même, je ne me considère pas du tout comme un nul, je ne fais pas de la fausse modestie, mais je trouve que j'ai eu beaucoup de chance.
Oui, peut-être. Mais vous savez bien que la chance, on la provoque.
Oui, je l'ai provoquée, mais enfin, il ne suffit pas de la provoquer.
Dans cette masse considérable de gens de très grande qualité, de grands talents surtout, que vous avez fréquenté et que vous continuez de fréquenter, s'il était un ou deux noms que vous aimeriez mettre en évidence, ce seraient lesquels?
Vous parlez des morts ou des vivants?
Les deux, peu importe. Des gens qui vous ont considérablement marqué.
Oh, écoutez, ce sont mes amis Badinter, Elisabeth et Robert Badinter.
Il faut qu'on baisse le rideau. Merci beaucoup, Pierre Barillet.
Merci, Olivier Barrault. Vous permettez que je vous tutoie?
Fin de cette rencontre d'Olivier Barrault avec Pierre Barillet. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, réalisation Anne-Pascale Desvigne, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Dès lundi, une nouvelle rencontre.